Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore dans cette deuxième partie de ce programme qui s'intéresse à présent aux essences de bois de la République démocratique du Congo. Comment valoriser, n'est-ce pas, les bois, les essences, je voulais dire, de bois de la République démocratique du Congo. Nous avons Monsieur Guy Nkajemba, coordonnateur du groupe de travail Climat Red Plus. Monsieur Guy, bonjour.
Bonjour, j'ai dit.
Bienvenue dans cette émission. Nous allons également accueillir tout à l'heure Olivier Franck, directeur général de la Maison du Bois, ainsi que Monsieur Elvis Metti, qui est responsable de la communication de cette structure. Des questions et préoccupations, appelez déjà au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Marcel Gombo assure la coordination de cette émission. Tati Mapoukou à la réalisation. Au micro, c'est jeudi Daniel Nkashama. Et à la technique, Dieudonné Nyangasa. Bienvenue à tous.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radiocapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Capi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radiocapi.net, la radio en différé à votre service.
Bien, la République démocratique du Congo dispose de près de 970 espèces forestières identifiées selon les experts. Parmi ces essences, on peut citer la Formosia, Wenge, le bois Tola, Iroko, Tali, Ébène Noire, etc. Et ces espèces forestières sont souvent coupées pour être ensuite exportées. En outre, on l'utilise aussi comme bois d'œuvre dans la construction de la charpente, des maisons, tout ça, les madriers, les poutres, etc. Cependant, il est possible de créer localement une chaîne des valeurs autour de ces espèces forestières. Alors, comment valoriser les essences de bois de la République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous avons Monsieur Guy Kajemba, coordonnateur du groupe de travail Climat Red Plus. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, je dis.
Mais c'est impressionnant d'apprendre que la RDC dispose de près de 970 espèces forestières.
Bon, pas très. La RDC est un scandale à tous les niveaux.
À tous les niveaux.
À tous les niveaux. Et donc, ça ne peut pas nous surprendre. Ce qui nous surprend beaucoup plus, c'est que ce n'est pas très bien exploité pour permettre à ce qu'on puisse réduire la pauvreté et combattre un peu la misère des communautés, des populations.
Alors, c'est ça le vrai contraste. C'est ça le vrai contraste. Et généralement, ces bois, tous ces arbres, ces espèces sont coupées pour, et puis ensuite exportées.
Oui, ce qui est fait aujourd'hui avec la pression fiscale, avec toute la difficulté de l'administration, on a difficile. C'est comme tout autre commerce. Aujourd'hui, on a des difficultés, même quand on est, même la nourriture elle-même, elle est importée, vous voyez. Donc, il y a un problème à ce niveau-là d'assainir les niveaux fiscaux pour permettre à ce que les opérateurs économiques puissent se retrouver un peu plus à l'aise. Et ceux qui exportent ces produits, c'est pas facile, hein. Ils se battent jour et nuit contre tous ceux qui l'administration fiscale, ça pose souvent des problèmes.
Donc, alors, comment est-ce qu'on peut arriver à créer une chaîne de valeur autour du bois, de notre bois, de toutes ces espèces que nous avons dans notre pays? Comment arriver à créer une chaîne de valeur localement?
Je crois qu'il faut, nous avons des exploitants, nous avons une association d'exploitants de bois qui sont structurés, organisés et qui doivent avoir beaucoup plus d'incitations, disons, ils doivent être encouragés par la législation fiscale, par l'administration forestière, de manière à ce qu'ils puissent s'investir dans ce travail. Et beaucoup de fois, quand vous parlez avec eux, ils vous disent qu'ils travaillent à perte et que ça ne sert à rien par moment de poursuivre le travail. D'une part. D'autre part, quand on parle de transformation, on parle de toute une chaîne. On voit un peu la disponibilité de l'énergie électrique, les machines, le carburant, les routes de desserte. Tous ces problèmes-là sont liés, c'est interconnecté en fait.
Voilà, c'est interconnecté. On va accueillir Olivier Franck. Il est directeur général de la Maison du Bois. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Il n'est pas seul. Nous avons également dans ce studio Monsieur Elvis Metti, qui est le responsable de la communication de la Maison du Bois. Elvis Metti, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alors, Olivier, nous parlons du bois. Vous vous intéressez beaucoup au bois. Alors, dites-nous, comment c'est parti? Vous êtes responsable de la Maison du Bois. C'est quoi la Maison du Bois et qu'est-ce que vous faites concrètement?
Ok, merci. Je suis le responsable de la Maison du Bois. Nous sommes des passionnés du bois. Tout ce qui est bois, nous cherchons à valoriser ce bois. Et moi, particulièrement, j'ai travaillé pendant longtemps dans le bois, aux États-Unis. Et la façon que j'ai remarqué qu'on exploitait le bois aux États-Unis, arrivé au Congo, j'ai vu le contraire. Je me suis rendu compte que nous avons beaucoup d'essence. Et mais nous avons un problème crucial pour valoriser ce bois à l'intérieur du pays. Oui, parti déjà du traitement du bois, c'est que je n'ai pas remarqué ici. Nous prenons le bois à la forêt, nous commençons immédiatement à l'utiliser. Or, il y a une phase préalable qu'il faut d'abord bien respecter, traiter le bois pour éviter les transformations, éviter beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça notre passion, donner une valeur à ce bois.
Mmh. Oui. Et aux États-Unis, comment on le fait? Vous avez vécu là-bas et comment ça se fait là-bas? Comment on traite les bois localement?
Localement, nous avons, c'est toute une chaîne. Nous avons des baies de traitement du bois, ce que je n'ai pas vu ici. Nous traitons le bois au moins pendant 2 semaines. Nous avons des unités de séchage pour éviter le bois à être transformé, travaillé. Vous savez, le bois, c'est quelque chose, après avoir produit des articles avec le bois, ce bois se transforme, ça change. Et un constat simple, si vous regardez des portes, il y a la plupart des portes, je veux dire, au moins 80% des portes ici, après avoir livré les portes ne se ferment pas. C'est pas que le menuisier n'est pas bon. Ils sont hyper intelligents et hyper bons. Mais à la base, ils n'ont pas le matériel pour sécher le bois, comme ça se doit. Un bois qui vient de forêt, les gars, directement, ils se mettent à travailler, à scier, sans avoir séché. Et j'ai fait quelques recherches ici. Il y a moins de gens qui sèchent le bois de manière artisanale et d'autres, je sais, à limiter. Il y a des gens qui sèchent déjà de manière industrielle. Mmh. Et nous devons encourager beaucoup plus dans ce sens, travailler le bois à la base avant de le transformer.
Voilà, donc vous vous occupez du bois et d'ailleurs vous organisez très bientôt une exposition autour dénommée Essence à Essence. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
De l'essence au sens.
De l'essence au sens.
Au sens.
Voilà.
Oui. Ça veut dire, nous avons beaucoup d'essence de bois et nous transformons en sens. Ça veut dire, l'objet, cette table, c'est un sens que nous donnons au bois. C'est pour ça que nous avons choisi de l'essence au sens. Nous avons une variété d'essence et nous les transformons maintenant en sens. La chaise que vous utilisez en bois, c'est un sens qu'on donne au bois. Ouais, c'est pour ça que nous avons baptisé cet élément de l'essence au sens.
Voilà, et comment ça va se passer? C'est des journées porte ouverte hein?
Oui, journée porte ouverte où nous avons, ce n'est pas rien que du bois, nous avons aussi des artistes, peintres qui seront là ce jour pour exposer avec nous. Donc ça veut dire nous avons beaucoup d'articles que nous avons fait à base du bois, travaillé. Et nous avons aussi respecté certaines formes de la nature du bois pour en faire qu'elle donne un sens à ce bois.
Ouais. Bien, on va donner la parole à Monsieur Elvis Metti, qui est responsable de la communication de la Maison du Bois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore sur cette activité, les journées portes ouvertes?
Bon,
de l'essence au sens.
Bien sûr, comme l'a dit Olivier, je pense que je veux juste ajouter par rapport à ce qu'il venait de dire. Il faut, puisque nous parlons du bois, il faudra au moins retenir avant que nous puissions arriver à la journée que nous organisons du 2 au 3. Depuis l'existence de l'humanité, nous savons...
Du 2 au 3 avril.
Oui, du 2 au 3 avril. Je vais y arriver. Mais bien avant que nous puissions parler de ça, je me rends au moins éclairé par rapport au but de l'action de la Maison du Bois. C'est-à-dire que nous savons, nous tous, que depuis l'existence de l'humanité, la forêt ou encore le bois a été toujours... En général, pour l'Afrique, mais plus particulièrement pour les Congolais, un réservoir d'intérêt que nous tous nous savons. Avant peut-être de parler sur la variété ou encore sur le principal source d'énergie et de matériaux que nous avons. Il a bien parlé, nous avons le tablier et autre chose que nous particulièrement nous utilisons, qui provient du bois. Raison pour laquelle le but de l'action de la Maison du Bois est de la valorisation du bois. Puisque nous ne pouvons pas seulement nous limiter à exporter ce que nous avons comme richesse, puisque nous parlons de minerais, mais sans ignorer que parmi nos minéraux et les ressources que nous avons, le bois aussi est une ressource qui peut créer de richesses, qui peut créer de l'emploi et qui peut créer aujourd'hui une classe des entrepreneurs dans le bois, et nous pourrons avoir dans les jours à venir des riches et des milliardaires. Pourquoi seulement il faut penser...
À partir du bois.
Bien sûr que oui. Mais pourquoi seulement il faut penser avec le diamant, le coltan et autre chose? Nous exportons des choses que nous-mêmes, nous pourrions à l'avenir être capables de créer des richesses à la base. Raison pour laquelle le but de l'action de la Maison du Bois est de valoriser le bois. Et notamment de créer aussi, dans le prochain jour, encore dans les jours à venir, une classe de riches ou encore une classe des entrepreneurs dans le bois. Il y a plusieurs choses là dans le bois, mais j'espère que je vais encore une fois revenir à votre question. Mmh. Et de l'essence au sens, c'est une journée porte ouverte que la Maison du Bois organise pour donner le goût à ceux qui voudront bien savoir sur nos créations et sur tout ce que nous organisons. Bien sûr, c'est tout ce que nous créons avec le bois. Parce que ça paraît un peu illicite ou encore d'une manière aveugle de comprendre que vous parlez de l'essence au sens. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le bois? Nous avons toujours eu l'habitude de voir des menuisiers et autre chose. D'autant plus que nous-mêmes, nous qui sommes africains et congolais, nous ignorons le valeur, la richesse qui se trouve dans le bois.
Mais ce que les menuisiers font, ils valorisent déjà le bois.
Ils valorisent déjà, mais ce n'est pas aussi mis en valeur ou encore ce n'est pas aussi ce qui est aussi dans le chef de plusieurs Congolais. Mmh. Raison pour laquelle, au-delà de la création de ce que font nos menuisiers, au-delà des portes, au-delà d'autres choses, il y a ce que la Maison du Bois a créé et nous ouvrons la porte au public pour venir voir dans cette exposition. Nous allons voir et puis le public sera à contact avec la Maison du Bois pour se permettre de voir et de revivre le valeur qui s'incarne dans le bois.
Bien, monsieur Guy Nkajemba, vous êtes coordonnateur du groupe de travail Climat Red Plus. Vous avez suivi ce que les autres intervenants ont dit. Donc le bois, il faut toute une chaîne de la transformation, avoir des équipements pour sécher et puis transformer et valoriser localement. Merci, oui, de vous rapprocher de votre micro.
Oui, je crois que je soutiens l'initiative. Ça doit être très important pour qu'il y ait des gens qui réfléchissent pour valoriser ce travail-là. Mmh. Parce que nous sommes, comme on dit, je l'ai dit encore ici, on est toujours un scandale géologique en tout. On est des potentiels millionnaires ou milliardaires dans tout ce qu'on a en RDC.
Mmh. Même dans les domaines du bois, c'est possible d'avoir de développer un entrepreneuriat.
Absolument. Ce que moi je veux dire ici, c'est la question du développement durable, de la durabilité. Ce sont des produits qui, une fois mal exploités, peuvent à un certain moment ne pas réapparaître. Vous voyez? Donc nous, notre réflexion est beaucoup plus dans la durabilité. D'une part, et d'autre part, ce qu'on voit ici, si effectivement il n'y a pas assez d'engagement des entrepreneurs sur l'exploitation des bois, il se pose une question au niveau... Quand je vois les Chinois qui sont en train de pavaner dans les forêts, ils ont des crédits de leurs banques. Ils ont le soutien de leur pays.
Et il y a des Congolais qui quittent ici pour aller acheter des meubles.
Ah oui, en Chine.
En Chine,
ouais,
ils achètent.
Ouais. Oui. Donc, il y a un problème au niveau de l'incitation, au niveau même de la politique du pays. Je crois que nous sommes en train de défendre, de travailler sur les différentes politiques, la politique forestière, la politique agricole, les autres, pour qu'on puisse permettre un peu d'avoir une lisibilité sur comment encourager effectivement. J'ai toujours dit, je ne vais pas dire que ailleurs ça marche ou ça ne marche pas, mais j'ai toujours dit qu'il y a un problème de réflexion globale sur les facilités à donner. C'est facile, là, aux États-Unis, il y a et ici, en même temps aussi, tous ces engins. Moi, je vous dis que par moment, il y a des bois qui sont abandonnés dans la forêt, coupés, abandonnés, parce que les coûts, ne fût-ce que le coût de transformation de transport vous coûte de la tête. Si vous n'avez pas de subvention de votre pays, si vous ne savez pas, comme on vient de le dire ici, si vous n'avez pas à les corrompre pour ne pas payer les fisques, vous ne saurez pas faire de bénéfices. Vous voyez? Et donc, il y a beaucoup de réflexions à faire au niveau de syndicats, des artisans de bois et des autres, et nous tous, pour voir un peu comment nous faisons pour que ces bois puissent être plus valorisés. Parce qu'en fait, au final, c'est la même chose. C'est anormal qu'on puisse aller acheter un bureau avec un bois qui sort de sa forêt et se retrouver
aller l'acheter en Chine.
Dans la même forêt, les élèves sont assis par terre.
Ah, ça, c'est un problème. Ouais. Olivier Franck, vous êtes entrepreneur dans ce secteur. Dites-nous comment vous arrivez à valoriser le bois. Beaucoup vont en Chine acheter les meubles, acheter ceci, cela pour équiper leur maison. Vous, en tant qu'entrepreneur dans ce secteur, qu'est-ce que vous proposez?
Bon, ce que mon confrère vient de dire, c'est très important. C'est un peu triste de remarquer que toutes nos entreprises, quand ils installent, ils commandent des fournitures de bureau en Chine, Dubaï, un peu partout. Et c'est le même bois que nous prenons ici, nous envoyons en Occident, et les gars transforment. Ils transforment
la Formosia,
la Formosia, le Wenge, le Padoue, Cali. Tout ça. Les gars transforment et nous renvoient ça ici à des prix terribles. J'ai fait une petite étude, je suis allé sur le marché pour avoir un bureau confortable, importé. Tu débourses en moyenne 1 500 dollars.
Un bureau importé.
Importé. Mais l'artisan est là, il a du bois. Il suffit de l'encadrer, comme le confrère vient de dire, lui donner des subventions pour avoir certains équipements, pour avoir la possibilité de produire le même bureau qu'on peut avoir localement à 400, 500 dollars. Donc je pense que c'est une filière qui est assez ouverte, où on peut devenir milliardaire. Comme vous avez dit tout à l'heure, on peut devenir milliardaire. Nous ne construisons pas au Congo avec du bois. Et le bois aussi autant résistant que le ciment. En Occident, on construit avec du bois.
Toute la maison en
bois. Toute la maison en bois, je l'ai dit.
Mais il y a les incendies, les risques d'incendie.
Oh, ça dépend, c'est la technologie. Nous faisons du sol. Nous n'avons pas besoin de trop de carreaux à l'Occident. Nous faisons des planchers. Et nous importons ces planchers pour venir mettre sur nos sols et être contents de ce bois. Donc je dis, il y a beaucoup d'ouverture dans le bois. Nous importons des portes. Et la question, c'est pourquoi nous importons des portes? Quelqu'un m'a répondu, c'est parce que dès que je fais une porte localement, 3 mois après, ça ne se ferme pas. La solution est simple. Sécher le bois et la porte va être plus résistante. Si nous donnons des infrastructures aux gens pour sécher suffisamment de bois, nous pouvons faire des portes et on n'aura plus à importer des portes. Si nous rentrons dans les statistiques, nous importons sérieusement des portes, même pas des portes de très bonne qualité. Et c'est la même chose un peu partout. Je pense que la filière du bois, nous encourageons beaucoup les gens. Et au niveau de la maison de bois, je pense que ça fait partie de nos objectifs. Nous allons commencer aussi à former les gens pour leur faire comprendre que dans cette filière, il y a beaucoup à faire.
Bien, il y a beaucoup à faire dans cette filière. Comment valoriser le bois congolais? On va accueillir les auditeurs. Nous avons Soupi de Kalima, Charles Kissimba nous appelle de Lumbashi, Jean-Claude Etakindou. Vous avez des questions et préoccupations? Appelez au 081 890 63 94.
Oh, Mario! Tout le monde,
les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Okapi. Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Comment valoriser les essences de bois de la République démocratique du Congo? On en parle dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. En ligne, Soupi, depuis Kalima. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour aussi à notre invité. Vraiment, il est très important la valorisation de ces bois-là. Parce que ici, chez nous, au Congo, nous sommes entourés par la forêt. Et la forêt-là produit des choses au marché. Mais ce qui est étonnant, arrivé au marché maintenant, vous verrez que choses sont moins chères. Par exemple, ici chez nous, nous avons des gens qui fabriquent localement des chaises de fil. Donc les fêtes de filets dont nous appelons en swahili Kisiakamba. Il y en a d'autres qui fabriquent la table des bois. Il y en a d'autres qui fabriquent donc les chaises en forme de genoux. Là, vous verrez, quand les individus fabriquent toutes ces formes-là, ils viennent au marché, mais vous verrez, les marchés les prennent à moins cher qu'une chaise de plastique. Vous verrez même une chaise de plastique coûte 40 000 ou 30 000, mais une chaise là de bois coûte 10 000 francs ou 8 000 francs. Et cela décourage davantage ces gens qui transforment ces bois-là en fabriquant de différentes manières pour venir au marché. Vraiment, le gouvernement congolais doit pencher à ça pour valoriser un peu notre
État congolais. Bien, merci Soupi Nyembo depuis Kalima. Charles Kisimba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi aux experts.
On vous écoute Charles.
Je voulais un peu profiter pour leur demander, est-ce qu'il existe une journée nationale ici au Congo, une journée du bois ici au Congo? Et pourquoi? Il semble être méconnu par le public congolais. Et selon l'observation des plus fidèles, on nous dit souvent que leur marché, à ce qui concerne l'exportation du bois, c'est surtout un marché clandestin, c'est surtout le marché noir. Lâchez dans leur secteur. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça? Voilà un peu ce que j'ai voulu connaître, M. Jody.
Bien, merci Charles. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Oui, bonjour Jody. Bonjour aussi aux invités.
On vous écoute, Jean-Claude.
Oui, Jody, moi j'apprécie la démarche, mais toutefois, je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de points. Moi, je vais faire allusion, par exemple, au bois rouge. Qu'on appelle scientifiquement les pterocarpus sphincterus, qui sont ici chez nous au Maniema, et que les Chinois exploitent au niveau des Kabambar et dans la réserve de Nouam. J'ai dit, quand on dit qu'on va ne pas améliorer ou valoriser, faire la chaîne des valeurs, j'ai dit, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quoi les dangers? Ce sont des espèces endémiques qui ne se retrouvent ni par ailleurs. Par exemple, les pterocarpus sphincterus, c'est juste au Maniema et dans le Haut-Katanga. Vous aviez même entendu l'évêque de Kinwa Kasenga qui faisait ce genre de déclarations. Moi-même qui vous parle, j'avais dénoncé et fait des plaidoyers avec mon collègue d'ici. Donc ça, c'est un grand danger quand nous avons certaines espèces qui sont endémiques et quand on va développer les chaînes de valeurs, sinon nous risquerons
de perdre ces espèces-là. Le bois rouge notamment.
Le bois rouge notamment. C'est les Chinois ici avec les Est-Africains, les Rwandais, les Tanzaniens, les Burundais envahissent nos forêts ici. Nous avons fait des plaidoyers, mais c'est comme si nous n'avons pas été écoutés par le gouvernement congolais et même par nos gouverneurs. Donc, moi, c'est le seul danger que moi je crains. Nous sommes prêts à faire des valeurs, les chaînes de valeurs.
Et comment les Chinois font? Ils coupent et puis pour les exporter directement ou bien ils les transforment localement?
Oui, oui. Ils utilisent les ayants droit, les autochtones. Et puis, quand ils coupent, ils vont avec ça au niveau de Uvira, dans le port de Mushimbaki, et puis ils s'en vont même à Baraka, et ils amènent ça au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie, jusqu'à Chine. Donc, ils exploitent ça, et puis ils utilisent des gros camions qui font des navettes entre Kabambare et Uvira et Baraka.
Bien, merci. Alors, quelle est votre préoccupation? Donc, si ça continue comme ça, on risque un jour de voir le bois rouge disparaître complètement.
Tout à fait, tout à fait. Alors que c'est écrit dans les conventions CITES. On a ratifié, la RDC fait partie. Donc c'est ça les dangers. Nous sommes des environnementalistes. Nous n'en disconvenons pas quand on développe des chaînes de valeur. Mais nous devons être beaucoup plus prudents pour ne pas perdre ce patrimoine mondial.
D'accord, merci d'avoir appelé Jean-Claude Dekindo. Monsieur Guy Kajemba, votre réaction, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Bon, celui qui m'intéresse, c'est le dernier.
Oui.
Le dernier m'intéresse parce que il y a une réflexion à faire, je pense qu'on a déjà commencé à le faire. C'est que nous sommes engagés à contribuer à la lutte contre le changement climatique au niveau mondial. Et les forêts de la RDC constituent une des forêts, de forêts principales, donc de base sur lesquelles le monde entier peut compter pour essayer un peu de lutter quelle tasse soit faite sur le changement climatique, à condition que ça puisse servir à la réduction des pauvretés aussi, en même temps. Alors, le vrai souci, le vrai problème, le problème qui est posé là est un problème sérieux. Hein. Ici, on a parlé d'un produit fini. Je ne sais pas si on a parlé de tout ce qu'il y a comme inventaire forestier, tout ce qu'il y a comme plan de zonage, parce qu'effectivement, l'exploitation ne se fait pas n'importe comment. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on veut être riche en bois qu'on va chercher le bois partout. Là, il y a beaucoup des éléments qui interviennent, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent intervenir. Notamment, il y a des espèces endémiques, comme on disait, et qui sont en disparition, d'une part. La deuxième chose, c'est qu'il y a toute la biodiversité. Nous sommes un pays qui a un plus grand nombre d'espèces animales et végétales. Et c'est parce qu'il y a des espaces, il y a des forêts, hein, il y a des animaux, que l'animal ne peut pas vivre là où on a déforesté. Et après ça, il y a tout ce qu'on appelle les produits forestiers non lignés. C'est-à-dire que la forêt pour nous, pour les autochtones, pour la
société... C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez produits forestiers non lignés?
Les produits forestiers non lignés, vous le connaissez, je dis. On a d'ailleurs parlé des problèmes de COVID ici. Pourquoi est-ce que le COVID n'a pas atteint beaucoup de gens? Les produits forestiers non lignés, c'est tout ce qu'il y a comme le miel, le mbizo, le noix de palme.
D'accord.
Tous ces essences-là. C'est aussi une immense base de financement qui fait en sorte qu'il faut que ça soit vraiment très bien, disons, encadré. J'ai parlé de la politique forestière et d'autres politiques. C'est pas, bon, je vois les opérateurs économiques, et l'opérateur économique ne réfléchit pas deux fois. C'est nos amis ici comme les autres, on voit l'argent un point entrer. Mais il y a tout ce qu'il y a comme les questions de sauvegarde, les questions de protection des droits des communautés, la protection des espèces endémiques. C'est pas parce qu'un perroquet est là et qu'il coûte 2 000 $ qu'il faut aller les... On a eu un compte assez comme ça, et qu'il faut nécessairement aller les vendre pour avoir l'argent. Et donc, il y a tout un travail que nous faisons en amont pour essayer un peu d'encadrer un peu ces besoins-là exponentiels de vendre et d'avoir l'argent.
Pensez au reboisement aussi. Reboisement, on a toujours dit ça.
Les mêmes espèces, on peut les avoir en dehors des forêts. Laisser les forêts tranquilles et faire un reboisement à côté. Mm. On peut les avoir. On a essayé avec les arbres à chenilles hors forêt. Ça a marché. Il y a des forêts dégradées sur lesquelles on peut... On peut faire tous ces problèmes de plantation de bois et exploiter plus tard de manière à ne pas impacter sur l'environnement. Les eaux qui sont dans les forêts sont dépendantes de ces forêts-là. Si on se dit bon, qu'il y a autant de mètres cubes d'aframose et que ça coûte 1 000 000 000 qu'il faut couper, et après nous sommes où? Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qui m'intéresse par rapport à ça.
Et surtout, il a déploré la présence des Chinois qui... Ouais.
Alors, si on revient sur les Chinois, ça, on l'a toujours dit, on le dit toujours, c'est un problème de la gouvernance, tout simplement. Et on l'a toujours dit, et c'est partout. C'est que, d'une part, comme je disais au début, les amis de la FIB, la Fédération des cellules du bois, quand vous êtes avec eux, vous réfléchissez avec eux, ils ont la bonne foi. Et c'est normal qu'on puisse encourager l'exploitation industrielle artisanale du bois. C'est important parce que ça doit aider le pays à se soulever. Mmh. Mais quand ils posent leurs problèmes, et quand on se compare aux Chinois, on trouve que les Chinois, là, ils ont des facilités. La première, c'est qu'ils ont des subventions chez eux. La deuxième, c'est qu'ils sont très forts en clandestinité. Alors, à ce moment-là, oui. si vous faites sortir un afromo, 2 mètres cubes, et que vous payez, qu'on vous attrape ici à Maluku pour que vous payiez les taxes, et qu'il y a 25 000 taxes à payer, et que lui, il trouve un moyen pour payer 3 000 taxes.
Oui. Et puis, il reste, et finalement, il disparaît, quoi.
Ça décourage un peu les exploitants. Mm. Ça décourage les autres. C'est ça le problème.
D'accord. Voilà. Monsieur Olivier Franck, vous avez suivi les auditeurs. Votre réaction?
Oui. Il y a un auditeur qui a demandé est-ce qu'on a une journée internationale du bois?
Voilà.
Je pense. Mm. Oui, je pense que, à ma connaissance, nous n'avons pas encore.
On n'a pas encore.
Oui. Et nous travaillons dans ce sens. C'est tout ça qui rentre dans l'aspect, la valorisation de la filière. Mm. Nous devions travailler avec les différents exploitants. Je pense que d'ici peu, nous allons avoir aussi une grande journée comme ça du bois que nous travaillons dessus déjà.
Mm. Mais vous organisez déjà 2 journées portes ouvertes.
Portes ouvertes, mais il y a quelque chose du lot qui arrive encore, qui sera plus grand que ça.
Oui.
Ouais, qui sera vraiment comme une journée du bois où on aura vraiment beaucoup d'exposants qui vont intervenir dans ce sens. Et il y a un auditeur qui a parlé de des produits des artisans qui coûtent un peu moins cher par rapport
voilà, au marché. La chaise
en plastique
coûte un peu plus cher
que la chaise en bois. Oui, et c'est vrai. Je pense que c'est à nous, le syndicat, nous devions travailler dans ce sens pour essayer de remonter la valeur du bois et encadrer les autres pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas des menuisiers, ils sont des techniciens du bois. Parce que j'ai l'impression que l'artisan qui fait du bois, les gens ont toujours perçu comme quelqu'un qui avait raté ou bien comme quelqu'un qui ne sait pas exactement. Mmh. Or, c'est un technicien comme vous pouvez avoir un chirurgien.
Et c'est tout un art.
C'est tout un art. Mmh. Et si on ne peut pas les enseigner que ce que vous faites là, c'est une profession professionnelle que vous appliquez. Vous êtes docteur du bois. Et là, vous pouvez, les prix doivent aller en conséquence. Donc c'est à nous les techniciens à réorganiser cette filière pour que les gens puissent donner cette valeur là au bois que nous avons sur place.
Bien, alors Elvis Metti, lors de ces deux journées portes ouvertes, qu'est-ce que vous allez présenter au public?
Essentiellement, puisque...
Et où est-ce que ça va se passer? Donc donnez-nous tous les détails par rapport à cela.
Ça va se passer au siège de la maison de bois, je crois que c'est sur avenue Okito numéro 42, précisément à Binza Pigeon. Référence, il y a le restaurant Pelustor. Si vous descendez là, il y a un arrêt Pelustor. Et puis, directement, vous êtes sur l'avenue Okito, numéro 42. En fait, ces deux journées que nous organisons est principalement dédiées à l'exposition de la création de la Maison du Bois. Comme nous venons de le dire, c'est plus important que nous puissions vulgariser, mais aussi montrer en face du monde ce que c'est le bois et ce que le bois peut faire. Ce sont là le but de l'action que mène la Maison du Bois. Au-delà de la pensée ou d'une philosophie, de valoriser le bois, voilà une façon pour nous de pouvoir mettre en exergue toutes les valeurs de la création et toutes les valeurs des œuvres que le bois peut créer. Et on venait de parler, je pense que si je veux encore une fois rebondir au sujet de la personne qui a demandé s'il y a une journée du bois, non, comme Monsieur Olivier l'a dit. Mais sinon, en RDC, nous célébrons chaque 5 décembre la journée de l'arbre. Aujourd'hui, nous parlons du bois. Ben, je ne sais pas si ça peut faire allusion à l'arbre et le bois. Mais plutôt, nous parlons aujourd'hui de la création et de ce que le bois peut faire. Nous parlons plutôt... 5 décembre, c'est la journée dédiée à l'arbre, ici en RDC. Et dans ces deux journées, comme j'étais en train de le dire, nous allons présenter la création ou les créations des œuvres que la Maison du Bois a déjà mis en place. Et c'est peut-être énorme que les gens puissent les découvrir. Parce que vous pouvez vous comprendre qu'il y a le lave-main en bois. Vous pouvez comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ignore.
Les chandeliers en bois.
Ok. Oui.
Nous avons des tables, des salles à manger en bois, purement bois massif. Nous avons des chaises de réception en bois. Nous avons presque tout ce que vous pouvez trouver en plastique ou en glace et tout. Nous avons transformé ça aussi en bois.
Ouais. Avec différentes formes.
Et
nous travaillons.
Oui, nous travaillons aussi avec les formes que la nature nous offre. Nous exploitons ça aussi pour faire des œuvres d'art qui peuvent être utilisées dans toutes les surfaces.
Donc,
bureaux, maisons, magasins, tout ce que vous pouvez faire avec du bois. Ouais.
Donc, le bois peut faire tout ce que nous pouvons faire avec le bois. Et c'est pourquoi nous invitons toute personne et toute la population à venir visiter les créations et les œuvres créées avec le bois du 2 au 3, les œuvres de la Maison du Bois.
Bon, du moins pour ceux qui sont à Kinshasa, mais ceux qui sont dans les autres provinces ne pourront pas venir, évidemment. Alors, vous utilisez quel genre de bois? Parce que là, il y a un auditeur qui a lancé une alerte par rapport au bois rouge. Je ne sais pas quelles sont les espèces, les essences que vous utilisez le plus.
Bon, quand j'ai suivi parler du bois rouge, je pense qu'il parle du padouk.
Ça s'appelle padouk.
Non, il y a un bois rouge, le padouk, qui est beaucoup exporté par les Chinois et Indiens et que nous ne trouvons pas, je dis, sur le marché local. Les gars ont fait de moins en moins de meubles avec du padouk. Et ça, c'est un bois que les Chinois, c'est difficile de l'avoir parfois. C'est à l'exportation. Ouais.
Bon, nous utilisons.
Ici, sur place, c'est beaucoup plus le. C'est quoi? Le lifaké, le.
Kambala.
Kambala,
ouais,
le wenge.
Afro, ouais, c'est ce que nous utilisons beaucoup, le bois noir. C'est ce que nous utilisons beaucoup sur place, ouais.
Bien. Nous parlons de comment valoriser les essences de bois en République démocratique du Congo. Vous êtes intéressé par ce sujet, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Vous avez suivi M. Guy Kanjemba qui déplore le fait qu'on va exploiter, on veut avoir de l'argent, mais entre-temps, on crée des problèmes au niveau de l'environnement. Monsieur Olivier Franck, votre réaction?
Bon, nous sommes encore en train de travailler là sur cet aspect et je pense dans les mois à venir, nous sommes en train de penser à avoir une plantation pour commencer à reboiser du bois en fonction des essences que nous aurons besoin. Donc nous pensons déjà à ça aussi. Nous travaillons avec
le département. Créer une forêt artificielle.
Artificielle, oui. Mmh. Ouais, ce sera la base de nos essences.
Bien, on va accueillir un auditeur, Safari depuis Gabarrière. Bonjour. Safari, bonjour.
Oui.
Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la valorisation des essences de bois de la RDC?
Ah, d'accord. J'aimerais poser une question par rapport à l'essence de bois. Nous avons, je crois, une certaine sorte de bois, ça c'est vrai, mais j'ai entendu dire que il y a certains bois que nous avons dans la forêt équatoriale, et après avoir subi une certaine coupe, hein, les gens disent que ces bois en question ne se reproduisent plus. Est-ce que les invités ont la précision de ces bois-là? Et puis, quant à ce que vous parlez de ce qu'il y a certaines personnes qui vont à l'étranger pour aller acheter certains matériaux fabriqués à base de bois, je crois que ces gens-là ont raison. Car moi, ici, là où je vis, je vois, quant à ce qui concerne la fabrication de certaines choses, par exemple, la porte, certaines portes ici, vous allez voir que les déménagers que nous avons ici, quand ils fabriquent certaines choses, l'homme qui a l'argent, vraiment, monsieur, je dis, ne va pas préférer ces produits en question. Parce qu'ils ne perfectionnent pas, ils ne améliorent pas leur fabrication. Moi, je crois que les autorités pouvaient mieux faire de créer certaines écoles de l'économie nationale pour perfectionner la fabrication des matériaux à base du bois. Donc, c'était ça ma contribution. Merci.
Bien, merci Safari depuis Gabarrière. Monsieur Guy Nkajema.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un travail qui a déjà été fait par DIAF en 2014. On a essayé un peu d'identifier, d'identifier, de cartographier les essences forestières. Et il y en a de trois sortes. Il y a ceux qui sont commerciales, il y a ceux qui sont peut-être, économiques, et d'autres qui sont à promouvoir et d'autres à protéger. Donc il y a déjà un travail qui a déjà été fait par notre direction de l'inventaire d'aménagement forestier et qui doit être, un peu actualisé
et vulgarisé.
Mais ce qu'on dit ici, c'est que il faut tenir compte du fait que les forêts que nous avons séquestrent des milliards, des gigatonnes de carbone. Je ne sais pas, je vais pas revenir sur les chiffres. Et que ces forêts-là, c'est parce qu'effectivement, il y a tous ces arbres là-bas à l'intérieur, avec tout ce qu'il y a comme ancienneté, vous voyez, qui font en sorte que nous avons encore un écosystème qui est un peu équilibré. Nous avons des pluies, nous avons des eaux, nous avons les climats qui varient, donc ainsi de suite. Alors, le travail qui doit être fait et qui constitue d'ailleurs, qui est en train d'être fait au niveau de l'aménagement territoire et ailleurs, c'est effectivement de cibler, c'est-à-dire que ce n'est pas interdit, on ne sait pas vivre sans bois. On va enterrer nos cadavres comment? On va construire nos maisons comment?
C'est ça. Et donc, on a toujours besoin du bois.
On a besoin de bois, les populations croissent, ils doivent construire des maisons et tout ça. Tout le problème, c'est la cartographie, c'est la localisation, c'est de dire. Voilà, et nous, gouvernement, nous autorisons que l'exploitation du bois artisanal se fasse de tel côté, avec telles conditions, que la ponction de bois à couper puisse respecter telle norme, qu'on ne vienne pas avec, comment on appelle ça,
les tronçonneuses,
et puis on coupe tout le bois, oui. Avec des tracteurs qui retournent le sol et qui vous dégage tout le carbone qu'on a.
Oui.
Ce sont des crimes, ça. Donc je crois qu'il y a une réflexion à faire à ce niveau-là avec nous. Donc c'est-à-dire qu'il y a en amont la bonne volonté des amis qui veulent en finir, mais il y a aussi en amont un travail à faire pour le permettre, en fait, qu'ils fassent le travail comme exploitant du bois et comme artisan et tout ça. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, et c'est que là où je vais revenir, on se plaint trop toujours. Donc c'est comme si quelqu'un est assis sur les diamants et puis il commence à se plaindre qu'il n'a pas de bijoux. Vous voyez, c'est un problème. Quand on parlait ici de chandeliers et tout ça, moi j'ai été en Thaïlande, en Bangkok. J'ai vu une entreprise qui n'écoute pas, même pas le un quart d'un palissade.
Quelle comparaison!
Même pas le un quart, et qui fabrique des cure-dents avec les bambous.
Des cure-dents?
Cure-dents. Et jusqu'à aujourd'hui, ici à Kinshasa, on importe les cure-dents en Chine. Les bambous, il y en a partout. Et nous avons fait un tour avec les experts internationaux. Les communautés nous demandent de venir leur aider à couper ces choses. Ça les dérange, je sais pas moi. Mais on se complaît ici à se plaindre. À dire qu'il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de bois, il faut ceci. Entre-temps, on est dans des futilités, on ne fait pas de l'histoire durable. Donc je crois qu'il y a aussi, à un moment donné, une réflexion à faire, une remise en question, pour ne pas donner seulement les ambitions comme on a l'habitude de les faire. On sera des milliardaires, on aura des millions, et puis après, on est tout le monde est paresseux. Et ça reste des rêves.
Mais, Olivier Franck, est-ce que les cure-dents en bois, est-ce que la Maison du Bois ne pense pas à cela?
Non, nous ne pensons pas à ça, mais je pense, comme il a dit, c'est quelque chose de très facile à faire. Vous avez besoin d'autres deux machines. Vous débitez le bois, vous mettez à l'intérieur, vous réglez le diamètre. Ça vous produit des cure-dents. C'est la même chose même pour les trombones que nous utilisons. Vous vous rendez compte que nous avons tout pour faire des trombones, nous importons des trombones. Donc, il y a beaucoup de choses. L'auditeur vient d'appeler là pour dire... Le travail que les menuisiers produisent en matière du bois ne laisse pas le consommateur aller vers ces produits. Il n'a pas tort. C'est pas
faux. Qu'il les pousse à aller ailleurs.
Ailleurs. Et ça fait partie de nos missions. Faire en sorte que la valeur du bois congolais soit valorisée. À l'intérieur du pays, là, les gens ne trouveront plus le besoin d'aller chercher ailleurs. Il faut travailler le bois à la base. Et j'ai parlé des portes. Les portes, le seul problème que nous avons avec les portes ici, c'est que nous ne séchons pas suffisamment du bois pour faire nos portes. Nous ne prenons pas le temps pour sécher du bois pour faire les portes.
Il faut combien de temps pour sécher?
Vous n'avez pas besoin de plus d'une semaine pour sécher un bois très bien si vous avez bien classé. Même naturellement, vous pouvez le faire. Vous pouvez classer et le vent peut vous aider à sécher ces portes, ces bois. Et vous allez travailler avec. Quand nous faisons venir le bois de la forêt, dans l'eau et tout, et nous prenons le bois de n'importe où, ça vient de Kinkole, vous prenez du bois, vous mettez sur la machine, vous débitez, le lendemain, vous êtes à la scierie, vous rabotez, vous faites une porte, vous allez livrer au client. Après un mois, l'eau s'évapore, le bois change.
Ça change de forme.
Oui, de forme. Et ça là, travaille.
Oui.
Et là, quand tu fermes la porte, ça ne peut plus.
Ça se referme plus.
Mais personne n'est patient prendre, aller sécher et garder et venir transformer, faire la porte peut-être après deux semaines. Il a besoin d'argent.
Parce qu'il veut vite gagner
de l'argent. Donc, il y a peu de menuisiers qui sèchent leur bois avant de faire la production avec.
Alors, Olivier Franck, qu'est-ce qu'il faut pour créer une vraie filière de bois dans notre pays? Qu'il y ait des producteurs, il y a ceux qui transforment, ceux qui font la distribution, d'autres, et ainsi de suite.
Je pense que c'est la volonté du gouvernement et accompagner les entrepreneurs dans leurs différents projets. Et je pense qu'on va arriver à avoir une bonne filière. Il faut que des banques accompagnent des entrepreneurs. Il faut que le gouvernement puisse protéger des gars qui sont dans la filière du bois. Et je pense qu'à ce moment-là, nous pouvons avoir une très bonne filière.
Bien, Elvis Metti, qu'est-ce qu'il faut pour... Qui sont attendus à ces deux journées portes ouvertes pour visiter vos créations de la Maison du Bois? Qui peut venir participer à cela? Et les conditions, est-ce que c'est gratuit? Comment ça se passe? Où c'est payant?
Étant donné que le bois en soi est un grand réservoir d'intérêt, c'est pour tout le monde. Ceux qui achètent, même ceux qui fabriquent. C'est-à-dire, la personne qui fabrique attend l'argent, la personne comme les clients qui l'utilisent attend aussi quelque chose. Parce que quand on prend la porte, c'est pour s'assurer une sécurité. Donc je pense que cette journée porte ouverte, c'est comme nous l'avons très bien dit, c'est une journée porte ouverte, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, c'est pas seulement une journée d'exposition, mais c'est aussi une journée des ventes. Et toute personne qui voudra bien venir acheter un bien ou une création de la maison du bois peut venir. Au-delà de visiter, au-delà de s'imprégner de ce qui est la valeur de bois, la personne peut aussi acheter une création de la maison de bois. Et nous insistons que le bois est un grand réservoir d'intérêt, surtout pour la population et surtout pour le peuple congolais, pour ne pas parler d'Afrique entière. Vous avez entendu, il y a d'autre part l'exportation des cure-dents et d'une part, je ne sais moi encore parler d'autre chose. C'est-à-dire que c'est ce que la maison du bois cherche à mettre en valeur, valoriser le bois et chercher à créer, bien sûr, une classe des entrepreneurs dans le bois.
Oui, il y a aussi une question culturelle. Est-ce que les gens ici s'intéressent au bois?
Bon, je ne sais moi qui peut ne pas s'intéresser du bois. Parce que tout ce que nous utilisons, je peux dire à 60%, c'est le bois. Non seulement si nous partons dans le bois parce que, excusez-moi, monsieur a parlé de la forêt.
Monsieur Guy, merci,
a parlé de la forêt. Le bois provient de la forêt. Et quand on a décrété cette journée du 5 décembre pour le bois, maintenant on l'a surnommé journée de l'arbre. C'est-à-dire que le bois provient de l'arbre. Si on peut aller dans la nécessité de tout ce que nous produit l'arbre, nous avons le bois. À 60%, nous pouvons savoir que l'intérêt de bois accompagne la vie humaine et l'humanité entière. Et il n'y a personne qui est sans ignorer que l'utilité des bois est tellement pertinente pour la vie humaine. Et je ne sais pas qui est cette personne que vous pouvez parler, peut ne pas s'intéresser du bois. Donc tout le monde s'intéresse du bois. Si la personne ne peut pas s'intéresser du bois pour peut-être faire la menuiserie, cette personne s'intéressera du bois pour acheter une chaise à s'asseoir. Si une personne ne peut pas s'intéresser du bois peut-être pour acheter une chaise pour s'asseoir, cette personne voudra dormir et puis il va peut-être acheter un lit. Donc voilà combien. Mais au-delà de cette question de la créativité, nous voulons amener à ce que les gens comprennent, surtout les Congolais, mais surtout aux autorités, de comprendre que le bois peut nécessairement faire des entrepreneurs, des milliardaires. Ce n'est pas seulement à s'occuper de minerais, ce n'est pas seulement à s'occuper des diamants. Juste avec le bois, nous pouvons faire des grandes choses et relever le défi de la pauvreté. Voilà la raison et le leitmotiv de la maison du bois. Donc je pense que nous sommes en train de rappeler ici et aux autorités et au grand public que la maison du bois organise une journée porte ouverte d'exposition et des ventes. Ça va se passer du 2 le samedi et le dimanche le 3, de 10h à 19h.
D'accord. Alors, M. Olivier, pour terminer, qu'est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à la valorisation des essences?
Oui, par rapport à ça, je pense que nous avons déjà presque tout dit sur ce plateau. Et nous invitons tout un chacun de se faire ce sacrifice, nous rejoindre le samedi 2 et le dimanche 3 et voir ce que le bois est capable de faire. Et chacun aura la réponse à sa question.
Est-ce qu'il y a un site internet où on peut déjà voir les différentes...
Non, Instagram, vous pouvez aller sur notre page Instagram, la Maison du Bois, RDC, et vous pouvez déjà voir certaines créations là-bas.
Ouais. Bien. Il y a aussi un numéro de contact. Hein.
Oui, lequel?
Il y a le 0-900-46-41-05 et le 081-33-98-98.
Bien, merci beaucoup. Monsieur Guy, on va clôturer avec vous. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la valorisation des essences forestières de la RDC?
Je retiens qu'il y a de grandes initiatives qui peuvent amener à ce qu'on puisse booster le développement de notre pays à travers le bois. Je retiens aussi que il y a encore un travail un peu... C'est pas aussi facile parce qu'il y a un auditeur qui a parlé de la formation. Je crois qu'il y a des choses à apprendre. Nous sommes dans la mondialisation. C'est nos amis qui sont ici, ils sont encore en train de travailler à vase clos. Je crois qu'il y a des échanges qu'il faut organiser au niveau mondial, que ce soit en Chine ou aux États-Unis ailleurs, pour voir comment est-ce que les amis valorisent ce travail-là. Je crois que les entrepreneurs devaient faire ce genre de voyage pour voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent. Parce que c'est aussi simple que ça. Tout le monde a la volonté. Mais quand vous voyez une porte qui vient de la Chine, elle vous impressionne. On met beaucoup de couleurs, beaucoup de choses, et vous sentez que c'est... Mais quand vous demandez à votre propre menuisier de vous fabriquer la chose, il arrive à vous faire quelque chose de consistant, mais donner
des produits pour les matières, pour finir, pour la finition.
Donc, je pense qu'il y a... Il y a une réflexion à faire aussi en amont pour voir s'il peut y avoir des échanges d'expériences pour renforcer nos capacités dans le travail approfondi du bois. Parce que je vois, il y a des bois qu'on utilise comme pour le poteau et on les importe. Parce qu'on les imprègne dans des produits
qui leur donnent un certain aspect, c'est attrayant.
Même pas le temps. Donc, c'est pas beau à voir, mais c'est très durable. C'est plus que le fer. Voilà. Et nous, on ne traite pas de ces bois-là, donc je crois que ce serait important de faire ça. Mais en même temps, il faut tenir compte de l'environnement. Il ne faut pas qu'on réfléchisse comme si on était dans un monde où tout était permis, parce que c'est un peu ça. Et voir un peu et comprendre aussi que le vrai problème doit partir de la bonne gouvernance. Le bois ne va pas remplacer les coltans ou le cobalt, qui est un produit au niveau international très... Mais qu'est-ce qu'on en fait?
Merci.
Il y a combien de millionnaires ou de milliardaires au Katanga où il y a le cobalt?
Merci, monsieur Kinkajema.
C'est un problème. Nous devons travailler sur la gouvernance.
Merci. Vous êtes coordonnateur du groupe de travail Red Plus, du groupe de travail climat Red Plus. Merci à Olivier Franck et à Elvis Métis de la Maison du Bois. À la prochaine.
Merci beaucoup.
Résolument engagé à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, la BRA Congo lance la troisième édition du prix Pierre Castel RDC. Vous êtes de nationalité congolaise, âgé entre 18 et 45 ans et êtes à la tête d'une entreprise légalement constituée évoluant dans l'agriculture, l'agroalimentaire ou l'agritech. Vous êtes résident de l'Équateur, Congo Central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maindombe, Mongala ou Sud Ubangi. Le prix Pierre Castel vous revient du 15 mars au 15 avril 2022. Participez en soumissionnant votre projet sur le site www.bracongo.cd pour gagner une dotation financière de 10 000 ou 15 000 euros et des formations en ligne avec le Centre International de Genève. Pour plus d'informations, contactez-nous au 082 85 00 112. Bra Congo Durable, engagé pour les générations futures.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.